La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique.
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique. Voir conditions et règlements du jeu sur lekioskeapizza.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi.
Mais c'est pas une cerise, c'est un melon, comme disait JC.
Les grandes gueules du sport.
C'est un énorme melon, c'est une énorme pastèque.
C'est quoi ces discours de loser, sans déconner?
Je suis pas de bon poil ce matin, donc vas-y, continue.
Jean-Christophe Drouet.
Du grand David Douillet ce matin dans les grandes gueules du sport avec nous, également Christophe Sessieux, Sarah Pitkowski, Fred Bess. On a réussi à redonner le sourire à David. Bravo à Alban Azaïs, notre réalisateur. On est ensemble jusqu'à midi. Très heureux d'être avec vous. On a beaucoup de choses à vous raconter ce matin, évidemment, et forcément encore une fois le foot français qui a sombré dans la violence, des affrontements qui ont eu lieu hier entre supporters parisiens et lyonnais en marge de la finale de la Coupe de France. Ces nouveaux incidents vont-ils enfin changer quelque chose? 10h30, nous parlerons de sport, c'est important aussi, la sublime performance du Stade Toulousain en finale de la Champions Cup. Les Toulousains arrivent-ils encore à vous impressionner? Ce sera notre question. Et puis c'est parti, aujourd'hui pour Roland-Garros 2024, on vous donnera toutes les affiches du jour avec Eric Salio qui nous attend déjà en direct de la Porte d'Auteuil. Mais demain, c'est le match de la quinzaine déjà. Nadal Zverev, une rencontre géniale pour certains, dommageable pour d'autres. Le champion espagnol aurait-il dû être protégé? Nous ouvrirons le débat à 11h et les GG ne sont pas d'accord.
Le plus, c'est les gazés.
Voilà. Ici, c'est Paris.
Les images sont d'une rare violence. Hier, en fin d'après-midi, des affrontements ont eu lieu entre supporters parisiens et lyonnais sur l'autoroute A1, tout près de Lille, en marge de la finale de la Coupe de France. Le bilan est toutefois rassurant. Une trentaine de blessés, les dégâts matériels impressionnants et encore une fois, l'image du foot consternante. Valentin Germain, notre envoyé spécial à Lille, est avec nous. Salut Valentin.
Salut les grandes gueules du sport, salut à toutes et à tous.
Alors que s'est-il passé exactement hier sur ce péage de Fresnes aux alentours de 18h?
Eh bien hier, en fin d'après-midi, sur cette aire de péage de Fresnes, il y a plusieurs quarts de supporters parisiens. On est à 40 km de Lille et en fait, c'est un point de rendez-vous pour les fans du PSG qui ensuite doivent se faire escorter jusqu'au stade par les forces de l'ordre. Problème, à ce moment-là, des quarts de supporters lyonnais arrivent au même endroit. Et là, les versions divergent. Alors certains disent que ce sont les Lyonnais qui ont déclenché la sécurité de leur bus pour attaquer les Parisiens. D'autres assurent que les Parisiens ont provoqué les premiers. En tout cas, une bagarre générale débute, une grosse centaine, voire plus de personnes impliquées, dit la préfecture, si bien que l'autoroute est fermée pendant un temps dans les deux sens. Des fumigènes sont lancés, un quart de supporters lyonnais prend feu effectivement sous la barrière de péage, ça dégage une épaisse fumée noire, deux autres quarts sont endommagés, bilan 13 blessés côté supporters, 8 chez les forces de l'ordre. La question maintenant, c'est de savoir comment les supporters ont pu se retrouver au même endroit, au même moment hier, alors que le match était classé 5 sur 5 niveau risque. Ce qui est sûr, c'est que les Lyonnais, eux, n'étaient pas censés s'arrêter là, sur cette aire dévouée aux Parisiens. Ils étaient en retard, ça on le sait aussi. Il y a eu un problème de timing pour les quarts lyonnais et de trajet, donc, disent les autorités. Jamais les quarts n'auraient dû se croiser. Hier soir, on annonçait 10 interpellations dans le cadre de cette soirée de la finale de la Coupe de France. Ça veut dire aussi que la très grosse majorité des supporters ont fini par arriver au stade, même si parfois ils étaient très en retard. On en a vu arriver aux alentours de l'heure de jeu. Et de ce qu'on sait, les retours, et ça c'est quand même une bonne chose, se sont bien passés pour rentrer dans les villes respectives de ses fans.
Merci beaucoup Valentin Germain pour toutes ces précisions en direct de Lille. Alors c'est vrai qu'on pourrait toujours chercher le coupable, mais force est de constater que le foot français sombre encore un peu plus dans la violence. C'était notamment le cas à l'automne dernier autour de cette rencontre entre Marseille et Lyon où le bus, souvenez-vous, lyonnais avait été caillassé avec Fabio Grosso, l'entraîneur.
Nantes-Nice avec
la mort d'un supporter.
Non, on les compte plus, quoi. C'est tous les 3 mois, ça revient. Et là, on va entendre les politiques dire « Ah, c'est un scandale, machin !» La ministre
dit «
Ah,
il faut... » Je condamne fermement. Moi, quand je lis cette phrase, je suis hyper choqué.
Ça va durer 3 jours, 7 jours, 10 jours, et puis ça va retomber, et rien ne va être fait. Parce que le problème est insoluble. Moi, je vois
si,
pas.
Alors, si, si, si.
C'est quoi? Interdire les déplacements?
Non,
on peut. Parce que là, on n'est pas dans un match de championnat où c'est un club qui se déplace dans une autre ville, dans un autre stade.
Là, où... Si on prend de la hauteur, c'est pas une histoire de sport aujourd'hui.
Ah, mais c'est une histoire de violence dans la société.
C'est une histoire de société. Et le problème, c'est qu'on a un arsenal judiciaire qui, aujourd'hui, ne punit pas immédiatement les gens qui dépassent les bornes. Et donc, ces images que tu vois, où tu vois un supporter descendre avec une barre de fer dans un bus, déjà, comment il a pu monter avec une barre de fer dans le bus? Déjà, rien que ça. Le problème, c'est que quand tu vois les dégâts et que tu dis qu'il n'y a que 10 interpellations et que dans 48 heures, avec des bons avocats, ils vont être tous dehors. Le problème, ça ne fait que encourager ce genre de choses. Si on est capable d'avoir un arsenal judiciaire et un Conseil d'État qui ne remet pas en cause la fermeté, qui ne remet pas systématiquement en cause les décisions, eh bien, peut-être qu'on fera descendre ça. Mais le problème, c'est que on peut, la ministre, n'importe quel ministre peut inventer n'importe quelle loi si elle ne peut pas être mise en place. Et si le Conseil d'État, comme il se passe souvent, retoque parce qu'on est dans la liberté de circulation, c'est la liberté de circulation des Français. Et là, tu dis, mais on marche sur la tête. Donc, c'est pas les forces de l'ordre, c'est pas la faute des clubs. Les clubs, enfin, je veux dire, à un moment, on peut pas tout reporter sur les clubs. Il faut que ces gens-là soient punis, soient mis en prison et qu'il y ait zéro impunité. Et peut-être qu'on fera descendre les choses. Mais aujourd'hui, on s'en fiche de savoir qui a commencé, pas commencé. C'est comment on sanctionne. Comment on sanctionne immédiatement.
Il faut surtout
et
des
sanctions. Et pas dans 6 mois, et pas dans 1 an, et pas dans 1 an et demi.
Il faut que ça soit immédiatement, je suis d'accord.
Les interdictions de stade, mais si elles tombent dans 2 ans, qu'est-ce qu'on s'en fiche?
Mais c'est pas suffisant, les interdictions de stade. On est sur autre chose, là. On est sur de la violence. Donc, pour moi, c'est du pénal, et ça doit être hyper fort. Alors, rapide, déjà, oui, je suis complètement d'accord, mais surtout hyper fort. Prendre des décisions très fortes qui te disent, ah, j'ai peut-être pas y aller sur ce coup-là parce que c'est très dangereux, parce que je risque d'aller en prison pour ça.
Ce n'est jamais dissuasif pour vous, mais est-ce que ces nouveaux incidents-là peuvent encore changer quelque chose? Est-ce qu'on est là-dedans?
Mais on a l'impression qu'on est tombé dans une routine.
C'est banal.
Je suis d'accord avec Christophe. Qu'est-ce qui va se passer? Là, tout le monde va pleurer pendant une semaine en disant, ouais, c'est scandaleux ce qui s'est passé. Et dans une semaine, tout le monde aura complètement oublié.
On va chercher l'erreur.
Et tout le monde va se dire,
on va chercher le coupable. Le coupable, c'est les autorités parce qu'elles ont pas bien mis en place le trajet, l'escorte.
Après, on va trouver un bouc émissaire.
Il y a qui vont dire, bah non, c'est les Lyonnais parce qu'ils ont provoqué, l'autre ce sera les Parisiens, d'autres c'est le football. Voilà, tu vas chercher le bouc émissaire parfait. Une fois que tu l'auras trouvé, il sera différent selon les uns et les autres. Une fois que tu l'auras dit, ben voilà,
tu auras pas fonctionné suffisamment et tu n'auras pas mis suffisamment la pression. Et surtout, un bouc émissaire, c'est pas suffisant, c'est que tous sont responsables. Il faut tous les sanctionner. Et je peux comprendre que ça soit dur, mais à un moment, ben, il y a beaucoup trop de violence. Quoi.
Évidemment, supporters parisiens, supporters lyonnais, si vous étiez hier sur cette aire de péage, on vous attend le 32-16 si vous voulez nous livrer votre témoignage.
Sur Twitter, on vient de m'envoyer une photo des toilettes du stade Pierre Mauroy hier soir après le match, complètement arraché, complètement vandalisé par je sais pas qui, peut-être les Lyonnais, peut-être les Parisiens, mais là ça dénote les mecs qui vont à l'extérieur, donc ils cassent tout, ils ont envie d'en... Mais allez en Ukraine les gars, si vous avez envie de vous bagarrer, allez-y, montrez-nous que vous en avez là, dans le pantalon, au lieu d'attaquer s'attaquer à des mecs dans un péage, enfin franchement cette violence.
Mais c'est pas que des
images. Moi ça m'a fait penser à ce qui s'est passé il y a une semaine au péage à côté de Rouen, lorsque des malfrats ont fait un guet-apens pour faire sortir l'un des leurs. Bon, il y a eu des morts ce jour-là, il n'y en a pas eu hier soir, mais c'est...
Oui, mais dans les images de violence...
C'est un péage d'autoroute, et t'as des images d'une violence extrême, quoi. Et pour les gens qui regardaient la télé ou sur les réseaux sociaux qui ont vu ces images-là, l'image du foot, l'image même du sport en France, on arrive, il y a les Jeux Olympiques dans un mois et demi, les gens à l'étranger vont se dire, mais est-ce qu'on va aller dans ce pays
Que moi j'ai peur pendant ces Jeux Olympiques, j'ai peur parce qu'on n'arrive pas à maîtriser ça. Comment tu vas maîtriser un événement de l'ampleur des Jeux Olympiques? Franchement, j'ai vraiment peur.
David Douillet, et puis après j'ai quelque chose à vous faire écouter, mais évidemment supporter, ou même si vous voulez juste témoigner, n'hésitez pas à composer le 32-16. David.
Moi j'ai trouvé que Sarah avait fait une excellente clarification de par la mollesse de et puis le temps de réaction de notre justice et quand on est confronté à ça, parce que ça met du temps à réformer, à créer des textes et à les faire appliquer, etc. Il y a toujours des délais qui sont qui ne correspondent pas aux besoins de la vie, et preuve en est que ça continue. Je pense qu'il faut que le monde du sport prenne le problème à bras le corps. C'est la seule solution, à minima, hein, à minima. Et la problématique, c'est d'une part d'identifier ceux qui font ça. Or là, peut-être que au PSG,
et ça on sait faire. Ils savent.
La deuxième chose. Une fois qu'on a identifié les gens, c'est que le monde du sport, lui, soit implacable. C'est-à-dire qui que ce soit.
Oui, mais c'est quoi ta répression, David? C'est quoi le monde du sport? C'est quoi ta répression? C'est
ça, David?
J'y venais. J'y viens, les copains. La moindre action négative, que ce soit dans un stade ou à l'extérieur d'un stade, à partir du moment où il y a une compétition sportive qui en est le prétexte, que ce soit sur un transport ou à l'intérieur, qu'on arrache un siège, qu'on le jette en l'air, ou qu'on envoie un fumigène ou quoi que ce soit, la personne doit être interdite de stade à vie.
Mais David, ouais, je suis d'accord.
Et puis dernière chose,
de stade qu'elle peut pas monter dans un bus et attaquer à l'extérieur du stade des supporters.
C'est
la responsabilité du club pour l'instant, pour le coup. De faire un déplacement avec des supporters qui sont interdits de stade. Vas-y.
Exactement. David. Quand les cars sont remplis, tu as ton ticket pour le stade. Non, bah merci à toi. Là, c'est du basique, quoi. Et puis la dernière chose, je trouve que les joueurs et notamment les grands noms du sport, et en particulier ceux du foot, malheureusement, devraient parler sur ces sujets. Ils parlent sur beaucoup de choses, ils ne parlent jamais de ce problème.
Ça, c'est vrai.
Ils ont un devoir de dire les choses en disant
ils doivent condamner
et ils doivent parler aux gens qui viennent les voir aussi. Ils doivent leur expliquer. Oh les amis, vous venez nous voir, vous êtes des fans, enfin j'espère pour nous, vous venez nous soutenir, mais si vous nous aimez vraiment, soyez pacifiques, pacifistes, ne devenez pas des fous furieux. Nous on cautionne pas ça. Les athlètes ont quelque chose à faire là-dessus.
Je reprends la main parce qu'on a beaucoup de choses à évoquer. Je voudrais vous faire écouter, notamment la ministre des Sports, mais c'était, en automne dernier, je le disais, après la rencontre entre Marseille et Lyon qui avait été reportée. Mais déjà une première observation après tout ce que vous dites, parce que, ok, tout le monde condamne, mais à quel moment les supporters qui étaient présents dans ces bus arrivent à regagner les bus et à aller au stade.
Et aller jusqu'au stade.
Non mais à quel moment on leur permet d'aller voir ce match?
Oui.
Non mais déjà, première mesure, ils sont renvoyés à Paris et à Lyon. C'est la première mesure.
Ça serait la base. Effectivement, ils ne sont pas sanctionnés. Ils se battent et finalement on dit allez, la récréation est finie, tout le monde rentre dans son bus et on va voir le match.
C'est
incompréhensible.
Je suis sûr que c'est une histoire encore réglementaire. C'est-à-dire que si tu les achemines pas, ils sont capables. Je pense que ils sont capables de prendre des avocats et de retourner la situation en disant mais on avait un billet, on devait aller jusqu'au stade et que finalement ça revienne
sauf que t'as pas le droit de te battre sur un lieu public.
Faut arriver à prouver qu'un tel est coupable.
Il y a une rixe énorme qui débute, donc logiquement
dix interpellations alors que tu sais qu'il y avait dans ces bus à un moment donné, pourquoi que 10 interpellations?
Bref,
ce sont des questions qui resteront en suspens, mais c'est important de les mettre sur la table. Amélie Oudéa Castéra, c'était le 5 décembre dernier.
Copier-coller, non,
oui,
j'imagine.
Écoutez, sur ces violences justement, ça y est, le pouvoir public, les autorités ont compris visiblement.
Je pense qu'il faut qu'on marque le coup, il faut qu'on arrive à envoyer un signal de très grande fermeté. C'est la raison pour laquelle, avec Vincent Labrune, on se dit aujourd'hui qu'il faut qu'on ait vraiment un moment comme un moratoire sur ces déplacements de supporters pour qu'il y ait une prise de conscience collective, un sursaut et une volonté partagée de traiter la situation. Ça peut pas durer comme ça. Et on peut pas se permettre d'avoir des forces de l'ordre aussi sursollicitées dans le contexte sécuritaire que l'on connaît.
Sur le constat, on est d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'on peut repasser ce sonore tous les ans, tous les 6 mois, tous les 3 mois, et en fait, rien ne bouge.
Donner un arsenal judiciaire pour qu'on puisse prendre des décisions.
Il y a eu un moratoire. Pendant quelques semaines, il n'y a plus eu d'interdiction de supporters. Et puis après, on est reparti au mois de janvier, comme... Voilà, c'est pas grave.
Oui, comme en 14. Mais c'est là, je comprends pas pourquoi on ne peut pas appliquer les lois directement, en fait. Et pourquoi on n'entend pas? Parce que Madame Oudéa Castéra parle donc de la Ligue de football, de la Fédération française de football. Rassurez-moi, je n'ai ni entendu le président, ni le président de la Ligue, ni personne.
Alors,
hier,
hein. Le président de la Ligue, lui, oui, n'a pas à voir avec la Coupe de France. Okay. C'est la Fédération française de football. Ouais. C'est pour ça que là, vous avez entendu Amélie Oudéa Castéra qui parlait de Vincent Labrune, parce qu'à l'époque, c'était un match de Ligue 1, et donc, avec la Ligue de football professionnelle. Bah, justement, c'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant parce que j'ai relu le communiqué de presse tombé hier soir pendant la finale justement de la Fédération française de football. Il y a quelque chose qui m'a interpellé. Souvenez-vous, il y avait eu un communiqué de la Ligue aussi après les incidents lors de Marseille-Lyon. Et ce communiqué disait, voilà, on condamne, ça a été fait sur la voie publique. L'histoire de se défausser un petit peu, c'était pas dans le stade, donc nous, ça nous regarde pas trop. Hier, communiqué de la FFF. La FFF condamne avec la plus grande fermeté les graves incidents survenus avant la finale de la Coupe de France entre les supporters lyonnais et parisiens. Ces actes de violence qui ont eu lieu en amont du match sur la voie publique sont inadmissibles.
Oui, mais
on sent tout de suite que c'est pas pour nous, quoi.
C'est de leur faute à eux. C'est scandaleux, c'est encore pire.
Tant que ces institutions, que ce soit la Fédération française de foot, continueront d'être à l'image de la justice sur ces sujets, d'ailleurs, des ventres mous qui ne régissent pas, ça va continuer. C'est tout. En fait, le sujet est là. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de résoudre ce problème en étant ferme et définitif pour protéger les gens contre leur idiotie? Eh ben, la réponse est non, parce qu'on est des ventres mous, on se rejette la balle. C'est des réponses de politicards. Mais, de politicards qui ne veulent pas travailler, en fait.
Qu'est-ce que la fédération a comme pouvoir d'interdire un stade, entrée dans le stade? C'est quoi?
Valentin Jamin.
Aucun, en fait.
Ils n'ont pas le pouvoir.
Il y a deux arrêtés, deux interdictions de stade. L'interdiction judiciaire de stade, vous passez devant le tribunal. L'interdiction administrative, c'est le préfet. Maximum, c'est 5 ans. On peut pas interdire des gens de stade à vie, donc c'est 5 ans maximum. La fédération, elle ne peut pas, on va dire,
sanctionner. Si, on peut tout faire. Non, mais bien sûr, c'est toujours pareil.
Aujourd'hui, les textes ne le permettent pas.
Mais les textes ne le permettent pas.
Non, mais ça, je vous ai.
Attendez, David, les tribunaux et les décisions ne sont pas prises.
Pas tous en même temps, David.
Ça, c'est un truc qui m'a toujours défrisé. Je veux dire, quand t'es au pouvoir, que ce soit à la tête d'une fédération, à la tête d'une ligue, ou à la tête d'un exécutif, quel qu'il soit, on peut, il suffit de faire changer les choses, on peut. Ah oui. C'est juste, si on peut pas, on fait plus rien, puis on regarde les gens s'entretuer. Bah c'est complètement absurde. Mais oui, mais c'est justement ce qu'il faut changer. Donc je parle d'une attitude de votre mou.
Toi qui as été dans la politique, à quel niveau faut-il changer quelque chose? Parce que tu peux pondre une loi.
Tu l'as très bien dit tout à l'heure.
Mais si derrière ça, tu as d'autres lois qui te permettent de bouger, tu fais quoi?
Tu l'as très bien décrit tout à l'heure, et je suis complètement d'accord avec toi. Le constat, il est évident. La loi n'est pas adaptée, les textes et les décrets ne sont pas appliqués correctement. Et puis derrière, il y a une administration qui est celle de la justice, qui a son énormité, qui est un énorme paquebot, et qui a pas souvent. Ça dépend des personnages. Il y a des personnages et des procureurs qui font très bien leur travail, des juges qui font très bien leur travail, et puis d'autres qui sont plus laxistes. Et il y a tout. Bon, c'est ça le problème. Mais là, le truc, c'est que c'est le monde du sport qui doit se saisir pour montrer l'exemple. Il faut quand justement le côté civil des choses, le côté régalien des choses ne suit pas, c'est au monde du sport de statuer. Et on a oublié un personnage important dans l'univers de la législation du sport, c'est le Comité national olympique. Lui là,
s'il avait un pouvoir aussi important que lui, ça se saurait.
Mais il peut influer sur chaque fédération. Okay, vous savez, chaque président de fédération font partie de ce Comité national olympique. Et s'ils ne font rien, ils vont scier la branche sur laquelle ils sont. Il y a des solutions légales pour faire influer la loi, la vraie loi, la loi du sport, qui est sa loi. Il faut le vouloir, c'est tout.
Mais déjà, il y a une règle très simple, David, c'est d'interdire les déplacements de supporters. Tout simple. Mais ça, c'est tout simple. Voilà. Tu le fais, tant pis, il n'y a plus de folklore, il n'y a plus de supporters.
Dans le cadre d'une finale, comment tu fais?
Dans le cadre,
tu fais une finale à huis clos, alors.
Mais tu ne fais pas une finale à huis clos. À huis clos, ça se passe à Lille. Il y a plein de
Lillois.
Non, mais tous ceux qui aiment le foot, ils peuvent aller, tu peux remplir le stade sans avoir des groupes de supporters.
Tu disais un peu le charme.
Ça va, le charme. On a vu ce que ça donnait, le charme.
Oui, mais si tu prends tes responsabilités là, sur ceux qui créent le bordel, peut-être que tu peux avoir des vrais supporters qui viennent pour voir le match. Et je trouve ça hyper
difficile
que tous les supporters créent le problème. C'est pas vrai.
Ou alors, une année, tu dis aux supporters parisiens, tu les autorises, et l'année d'après, tu mets dans l'autre équipe.
Non, mais là, dans une finale, tu ne règles pas le problème. Tu ne règles pas le problème.
Quand tu te déplaces à l'extérieur, ça, je comprends.
J'entends que c'est particulier.
Mais là, sur une finale, c'est compliqué quand même. Tu vois, si tu
prives. Tu ne règles surtout pas le problème. Le problème, il est là. Tu ne règles pas le problème, JC, tu vois, en interdisant momentanément
les déplacements. Tu le déplaces pendant un
moment. Tu le déplaces, exactement. Tu le déplaces dans le temps. Il faut le régler le problème de façon. Ce sont des brutaux. Il faut parler aux gens le langage qu'ils comprennent. Ce sont des gens qui sont brutaux. Il faut avoir une réaction brutale. Les gars, vous déconnez, interdiction à vie. On veut plus vous voir dans le monde du sport. Vous n'avez rien à y faire. Voilà, c'est tout. Et les joueurs doivent dire ça.
Voilà ce que l'on pouvait vous dire sur ce dossier. Évidemment, toutes les informations à retrouver sur rmcsport.fr. Merci Valentin Germain d'avoir été avec nous. 9h29, on se retrouve dans quelques instants pour enfin parler de sport. Le Stade Toulousain arrive-t-il encore à vous impressionner? Oui ou non? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h33, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin David Douillet, Sarah Pitkowski, Christophe Cessieux, Fred Weiss. Dans une dizaine de minutes, restez bien avec nous. On s'en fout pas des informations à vous donner. Charles Leclerc notamment qui partira en pôle chez lui à Monaco. C'est à 15h le Grand Prix de Monaco aujourd'hui. Ou encore les Lyonnaises qui chutent en finale de la Ligue des Champions. Voilà, vous me direz si vous avez envie que l'on développe ces informations.
C'est terminé! Victoire 31-22 du Stade Toulousain qui remporte la guerre des étoiles. La sixième étoile va du côté du Capitole. Encore Toulouse de retour de premier plan sur le domaine européen. Trois ans après, Toulouse est à nouveau champion d'Europe. Toulouse remporte la Champions Cup.
Eh oui, incroyable, Toulousains hier qui ont remporté leur sixième titre européen au terme d'une finale d'anthologie face au Leinster et après une prolongation irrespirable à 14 contre 15. La force, la sérénité de cette équipe est tout simplement hallucinante. Thomas Ramos après la rencontre sur Bein Sport, c'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
C'est un peu notre bête noire et de pouvoir les gagner en finale, ça c'est vraiment bien pour nous. C'est énorme, franchement, on s'est donné les moyens de revenir en finale. On voulait pas perdre, donc c'était impossible pour nous. Puis on a rien lâché, on passe 10 minutes à 14 en deuxième mi-temps, on a rien lâché. Mani qui est pété, il reste 10 minutes sur le terrain, ça s'envoyait comme un diable. Julien qui avait pas envie de sortir, voilà, je crois que ça montre l'état d'esprit avec un groupe comme ça. Je crois qu'on peut le dire, on a une très très grosse équipe et forcément on a envie de gagner des titres et je crois que ce soir on est récompensé de tout notre travail. Mais putain quel kiff quoi.
Le Stade Toulousain arrive-t-il encore à vous impressionner après tous ces titres? Oui ou non? Christophe Cessieux?
Oui, oui, oui.
Sarah Pitkowski?
Tout à fait, tout à fait.
Fred Weiss?
Non.
David Douillet? Mauvais coucheur.
Ouais, moi oui, je dis oui.
Ok.
Il préfère l'image. Déjà, il considère que Toulouse n'est pas un grand club.
Non, je ne vais pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est un immense club.
Je vous renvoie au podcast d'hier où on se posait la question de savoir si c'était le plus grand club de France, tout sport confondu. Bref, en direct de Londres, il est à l'aéroport. Forcément, il va revenir à Toulouse car il y a une grande fête à 18h sur la place du Capitole. La voix du rugby, Wilfried Templier. Bonjour Wilfried.
Bonjour tout le monde.
Oh là, oh là,
oh là,
oh là, oh là, oh là, oh
là, oh là, oh
là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là.
Alors ils sont arrivés très tard après que les fantômes du Leinster soient passés en conférence de presse. Alors, est-ce qu'ils se surprennent déjà entre eux? Question au manager Hugo Mola qui lui aussi a évoqué ses doutes durant le match.
Cette génération a ce côté un peu polymorphe de pouvoir répondre à pas mal de situations. Je vous cache pas qu'au moment du carton rouge, alors que le match est très certainement joué, mais voilà, le destin a voulu autrement. Il fallait s'accrocher, il fallait être capable d'avoir du caractère. Et je trouve que le retour de deuxième prolongation est admirable de gestion, de sérénité, de capacité encore une fois à montrer que c'est des joueurs incroyables. Et oui, les doutes, j'en suis empli, et c'est ma vie de douter. Mais eux, force est de reconnaître, ils n'en ont pas beaucoup.
Même quand le Leinster s'est fait pressant avec de nombreuses occasions d'essai, rattrapé parfois une extrémiste par l'immense défense toulousaine, 30 plaquages pour le seul Jack Willis. Toulouse a plié mais n'a pas abdiqué, comme l'explique l'ailier Mathis Lubel, qui est presque surpris, lui, d'en coller 17 des plaquages au total, personnellement.
17, c'est beaucoup, je crois. Il faudrait pas qu'il me fasse jouer trop d'ennemis. Il n'y a pas que moi, il y a tout le monde. Il y a le joueur, je crois, Jack, qui finit à presque 30 plaquages. Donc 30 plaquages, Romain, il en a fait un nombre incalculable aussi. Donc je pense que c'est à la hauteur du... de l'événement et il fallait répondre, on savait qu'il fallait répondre présent au moins sur tous les critères de jeu et on a été quand même mis à mal sur quelques points mais au final ben, le groupe encore une fois ben, il a été énorme on peut le dire je pense.
Mais on peut pas être au bout des surprises. On est peut-être pas, au bout des surprises avec ce groupe qui est déjà qualifié pour les demi-finales du top 14. Alors, doublé en vue, Thomas Ramos?
Grâce à un groupe énorme, on a la chance de pouvoir être premier du top 14. Je crois qu'il nous faut au moins un point pour aller en demi-direct. Enfin, je sais pas exactement. On y est déjà, bon, mais voilà. Pardon. Non, mais du coup, ça, c'est vrai que ça va nous permettre de souffler un week-end aussi. Ça va être important. Et puis ensuite, je laisserai la place au coach de commenter cette question et de nous dire.
Sourire en coin. Dit-il, sourire en coin, Mola disait dernièrement que ce groupe-là n'avait peut-être pas encore marqué l'histoire du Stade Toulousain. Pourtant, trois boucliers et une Coupe d'Europe, c'était déjà pas mal. Alors, un doublé en plus, on n'en serait pas loin, non?
C'est sûr qu'on, bien évidemment, qu'en 4 ans, depuis 2019, ce qu'on fait, c'est beau, c'est bien. Mais ils sont tout le temps là aussi pour nous rappeler que, bien évidemment, qu'il y en a qui ont un palmarès bien, bien meilleur que le nôtre pour le moment. Mais voilà, notre but aussi, c'est de continuer et d'essayer d'aller titiller pour, je ne vais pas dire pour être la meilleure génération de ce club, mais en tout cas pour essayer de garder une trace de notre génération dans ce club, ouais, bien évidemment.
Ne vous y trompez pas, il veut bien dire pour être la meilleure génération de ce club. Hein. C'est ce qu'il pense, Louis, mais quand on a déjà tout gagné plusieurs fois, il faut bien aller chercher des challenges ultimes pour les Toulousains.
Exactement, merci beaucoup Wilfried Templier pour toutes ces réactions. On te retrouve tout au long de l'après-midi, à partir de 18h, la grande fête, je le disais, sur la place du Capitole pour célébrer les héros et les champions d'Europe, les Toulousains. Le Stade Toulousain, arrive-t-il encore à vous impressionner? Je sens que vous voulez tous sauter à la gorge de Fred Weiss, donc il va s'expliquer pourquoi il a dit non, Fred.
Mais c'est super simple, parce que moi je les respecte, parce que moi je sais que cette équipe est fantastique, je sais que cette équipe est merveilleuse, et on l'a déjà vu. En fait, quand on entend Toulouse gagner, finalement, est-ce que ça surprend quelqu'un? Alors oui, le match était
donc
incroyable.
Donc en fait, tu banalises
je suis pas en train de banaliser, je dis simplement que... Ils me bluffent plus, je sais qu'ils sont capables
de ça. Ils trouvent la saison en fait, du PSG exceptionnelle, celle de Toulouse.
Laissez-moi déjà m'exprimer, et ça sera beaucoup plus simple. Donc ce que j'essaie d'expliquer, c'est que pour moi, c'est l'âme, c'est l'ADN de cette équipe d'être transcendant, d'être magnifique, de très bien jouer au rugby, de faire les efforts qu'il faut, de s'adapter Fred, en plus dans le jeu parce qu'ils ont été plus dans au niveau défensif plus intéressant que d'habitude, ils ont joué différemment, ils se sont adaptés, ils ont perdu quelqu'un sur carton rouge, c'est exceptionnel.
Ça qui est exceptionnel.
Mais est-ce que ça me bluffe encore de me dire que Toulouse va gagner?
De pouvoir réagir à ce genre de situation.
Ils nous ont habitués à cette stabilité, à cette capacité à gagner, à jouer dur, à jouer en équipe.
Ouais, et ça fait deux ans qu'ils n'avaient pas de titre européen.
Ils sortaient de deux énormes
défaites en finale. D'accord, mais vous avez pris 40 plus 40 points. Oui, mais tu sais que cette équipe a cette capacité à rebondir, cette équipe a cette capacité à bien jouer. Et je suis plus impressionné quand le Stade Rochelet, là ça me bluffe, quand le Stade Rochelet gagne. Ça m'impressionne. Quand Toulouse gagne, je trouve ça incroyable, magnifique, fantastique. Mais je suis moins impressionné.
Mais t'es impressionné parce que le PSG, qui a trois fois plus de budget que Joël, gagne la Coupe de France. Mais t'es pas impressionné par cette équipe de Toulouse qui va battre le Leicester.
Tu mets des mots dans ma bouche. Christophe, tu es d'accord? Mais j'ai jamais dit que je t'ai impressionné, moi. Mais
c'est toi qui ramènes tout au Paris Saint-Germain, quand même.
Quoi?
Au final, c'est toi qui ramènes tout.
Mais moi, j'ai jamais dit que je t'ai impressionné par le PSG.
Attention.
J'ai dit une bonne saison. Ça n'a rien à voir.
C'est le premier débat de
Être impressionné, c'est aussi de pouvoir laisser et de faire passer des émotions. Et quand tu regardes le match d'hier, les émotions que ce Stade Toulousain, que ces prolongations procurent.
Ça te surprend?
Mais oui, parce que moi, moi, je regarde le sport parce que j'ai envie d'avoir les poids, j'ai envie de vibrer. Et le match que je suis hier, pour moi, ça me donne les mêmes émotions que le 15 de France qui va gagner un tournoi destination ou une finale de Coupe du Monde.
Mais moi, ma question, je te dis, c'est est-ce que c'est une surprise de voir Toulouse jouer à ce niveau?
Moi, je suis toujours surprise quand le sport me
d'avoir des poids quand tu vois jouer Toulouse. Bah non, c'est pas
moi, je suis toujours impressionnée quand le sport me laisse une trace et que je me dis, je l'ai vécu en live et j'ai vécu des émotions. Moi, je suis toujours impressionnée.
Du départ, au départ, c'était bluffé. Et c'est pour ça que moi, je mets bluffé et impressionné.
Bluffé de gagner après avoir pris un carton rouge.
Mais bluffé parce que
Antoine Dupont, par exemple, ne t'a pas bluffé. Antoine Dupont,
le mec est juste monstrueux.
Le meilleur joueur du monde. Mais il m'a pas bluffé. Il a été comme d'habitude exceptionnel.
Non,
mais est-ce que c'est bluffant que Antoine Dupont soit exceptionnel?
Pourquoi il est bluffant?
Tu banalises l'exceptionnel.
Pourquoi il est bluffant? C'est parce que cette équipe toulousaine. Effectivement, tu t'attends à un schéma de jeu, tu t'attends à un jeu léché.
Oui,
la balle à l'aile, la vie est belle à la
c'est
toulousaine.
Pas, c'est pas, je suis d'accord.
Et un jeu très offensif. Hier, ils sont entrés dans un jeu de muerte, de tranchées. Ils ont fait une défense exceptionnelle. C'est rare de voir une équipe française défendre de la sorte. C'est rare de voir Antoine Dupont qui a été bloqué dans son jeu.
Dans les moments chauds, je sais bien.
Il a été bloqué dans son jeu offensif parce que les Irlandais l'ont mis sous pression avec leur rush défense. Et ben il a trouvé une solution. Et c'est en ça que ce mec-là est bluffant et exceptionnel. C'est qu'il a changé sa façon de jouer. Il s'est mis à défendre. Il est allé récupérer.
Dupont,
c'est 1m70-75. Il est allé chercher les ballons. Là où tu mettrais même pas la main ou le pied, il est allé mettre la tête là-dedans pour aller récupérer les ballons.
Et donc, tu es en train de me dire que Antoine Dupont,
dans ce genre de jeu-là, c'est bluffant parce que t'attends Dupont avec des offload, avec des schistera, ce genre de choses. Mais hier, il a presque joué contre nature et il a été exceptionnel. On aurait dit un troisième ligne.
Tout a été exceptionnel.
Tout n'a pas été exceptionnel.
Mais okay. parce que dans l'engagement, bien sûr que si, ça a été exceptionnel. Sauf que pour autant, est-ce que ça me bluffe de voir cette équipe être exceptionnelle? Non.
Je pensais pas qu'on s'embrouillerait sur le Stade Toulousain ce matin, mais je vous trouve très performant quand même. David Douillet.
Moi, je vais ramener un peu de calme alors.
Oh non.
Non, mais moi, je trouve que moi, on parle d'équipe, mais moi, ce qui me plaît et ce qui m'impressionne et ce qui me surprend, tu vois, dans cet univers du professionnalisme, c'est que le Stade Toulousain a réussi l'exploit d'être un club, un vrai club, avec un vrai centre de formation, avec un endroit dans lequel les anciens, Ntamack entre autres et d'autres, sont écoutés. D'ailleurs, leurs gamins jouent dans le club aujourd'hui. Tu vois, les roumates, etc. Ils ont réussi à conserver un état d'esprit, entre guillemets, familial et très professionnel. Parce qu'ils ont des stratégies de recrutement, notamment chez les jeunes, il faut rentrer des gens d'un très bon niveau, ils continuent à les former, ils continuent à les faire mûrir, et puis on en arrive à des qualités de jeu qu'on a vues en finale comme hier. Voilà, c'est ça qui m'impressionne. C'est-à-dire qu'il y a une stabilité au cours du temps où des gens intelligents qui sont à la tête de ce club sont capables à la fois de s'occuper de la base et d'être très territoriaux et très locaux, et en même temps avoir une vision très internationale en essayant de capter des talents en devenir et à les faire upgrader pour rester un des plus grands clubs français et être aujourd'hui le plus grand club européen. Moi, c'est ça qui m'impressionne. Et je trouve qu'ils ont la solution. Et Fred, tu parlais encore du PSG, que le PSG
non,
s'en inspire.
Non, c'est pas moi qui parlais du PSG, c'est Christophe qui parlait du PSG.
D'accord.
Ok, les copains.
J'aime bien quand tu t'énerves.
Bon, c'était 9h30 le débat sur le PSG. On parlait du Stade Toulousain. Il y aura une grande fête à Toulouse et forcément, nous allons suivre ça en direct sur RMC avec notamment Wilfried Templier
qui sera dans
Bartoli Time. Merci beaucoup Wilfried d'avoir été avec nous et bon retour sur Toulouse pour fêter les héros. Ce sera à partir de 18h. En tout cas, en fin d'après-midi, ça peut prendre un petit peu de retard ce genre de festivité, mais en fin d'après-midi, vous saurez tout sur le retour des champions à Toulouse, 6 titres européens donc pour le Stade Toulousain. On revient dans quelques instants, on s'en fout pas, avec notamment Charles Leclerc qui partira en pôle à domicile à Monaco. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h48, toujours avec David Douillet, Sarah Pitkowski, Fred Weiss, Christophe Cessu. À partir de 11h, nous serons en direct de la Porte d'Auteuil à Paris pour le grand début de Roland-Garros 2024. Et demain, déjà ce match qui fait saliver tout le monde. Nadal, Zverev. L'Espagnol aurait-il dû être protégé? Vous n'êtes pas d'accord, les GG? On se posera cette question et donc on retrouvera.
Est-ce qu'il y a un débat où on est d'accord?
Eric Salio. Oui, non, raison.
Franchement, on est né pour pas être d'accord, de toute manière.
C'est vrai. Bravo, ça vous honore.
Surtout avec
Allez, on s'en fout pas.
RMC. Le zapping des grandes gueules du sport.
Des informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, les Lyonnaises chutent en finale de la Ligue des Champions. On s'en fout pas. Fred Weiss.
Je m'en fous, je suis triste, mais je m'en fous.
Ok.
Je suis désolé, mais effectivement.
Tu t'en fous. Ok. Aussi. David Douillet.
Je m'en fous parce qu'il y a des sujets plus intéressants.
Ok, Christophe Fauquieux, allez.
Qu'est-ce que je dis?
Bah, c'est toi qui vois.
Non, mais j'avais juste un truc à dire. Ah bah, après,
Ok. Tu t'en fous pas. Je développe et après, tu pourras dire. Battu par le Barça hier à Bilbao 2-0. L'OL, donc, ne gagnera pas la 9e Ligue des Champions de son histoire. Les Lyonnaises, tout juste sacrées championnes de France, n'ont rien pu faire, face au nouvel ogre du foot européen, le FC Barcelone, qui a décroché sa 3e Ligue des Champions. Écoutez Sonia Bonpastor, la coach qui a reconnu la supériorité des Espagnols.
La déception, elle est grande. Forcément, perdre une finale, c'est dur. Maintenant, je pense que dans ces moments-là, il faut aussi reconnaître que Barcelone a fait un très bon match. C'est une très belle équipe et elle mérite ce titre ce soir, même si parfois c'est dur à accepter. Mais ouais, je suis déçue pour mes joueuses. Je suis déçue pour mes joueuses parce qu'on a énormément travaillé et forcément, on aurait voulu terminer cette saison par un nouveau titre et une nouvelle Ligue des Champions.
Christophe.
Non, alors je suis juste triste déjà de la défaite, mais déjà de ce manque d'engouement suscité par ce club. Il y avait, je crois, 6000 supporters. Il y avait même pas Jean-Michel Aulas qui préférait aller voir son Olympique Lyonnais se faire taper en finale de la Coupe de France, alors qu'il est patron quand même de la Ligue qu'il a vraiment.
Mais il est président de la 3F aussi.
Oui, d'accord. Mais du coup, il aurait dû donner l'exemple. Le stade était plein, il y avait une ambiance exceptionnelle pour le Barça. C'est là que tu reconnais les grands clubs et ceux qui le sont un peu moins.
Et on pourra regretter la diffusion pour une finale sur DAZN, pas DAZN particulièrement, mais sur une chaîne payante. Mais sachez qu'à partir de l'année prochaine, la finale de la Ligue des Champions féminine sera protégée, sera considérée comme un événement protégé, ce qui veut dire qu'il sera forcément en clair, comme le tournoi destination, Roland Garros.
Elle a commencé alors que la finale du rugby n'était pas terminée, donc les deux événements plus se sont chevauchés sur les antennes. C'est pas évidemment une bonne
Une belle vitrine. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est Charles Leclerc, pardonnez-moi, qui partira en pôle chez lui à Monaco. On s'en fout pas. Christophe Cessier.
Je ne m'en fous pas.
David Douillet.
Je m'en fous pas.
Sarah Pitkowski.
Je m'en fous pas, mais je vais laisser les autres.
Je m'en fous pas, mais un peu quoi. Moi, je sens le air zapping, je m'en fous.
Ok. À domicile, Charles Leclerc s'est montré le plus rapide lors des qualifications hier à Monaco. Le pilote Ferrari a devancé Oscar Piastri et Carlos Sainz, ce sont coéquipiers. Max Verstappen ne s'élancera, lui, qu'en 6e position. C'est assez rare pour le souligner. Alors, c'est la 24e pole dans la carrière de Charles Leclerc, la 3e à Monaco. Mais sachez qu'il n'a jamais réussi à monter sur le podium de ce Grand Prix si spécial. On va écouter Frédéric Vasseur, son patron.
Ouais, il a fait le week-end jusque-là parfait parce qu'il a survolé les essais libres, un peu toutes les séances. On a une Q1 très compliquée avec le plastique qu'on a pris dans le ponton et dans les lavants, où on a dû s'arrêter et on était un peu sur le fil, mais il est resté très calme, il a fait le boulot. Et voilà, je pense que c'était jusque-là un week-end parfait de la part de Charles. Mais maintenant, le boulot, c'est demain, c'est pas le samedi.
Eh oui, le boulot c'est demain et il sait de quoi il parle, hein, Frédéric Vasseur, même s'il vient tout juste d'arriver chez Ferrari, il est là depuis un an, mais il sait que c'est compliqué pour le monégasque de gagner chez lui.
Ouais, c'est compliqué. Enfin, il a pas eu de bol jusqu'à présent à chaque fois sur son circuit.
Ça, c'est vrai.
En revanche, tu vois que sur un tour, ça sert quand même d'avoir fait le trajet quand t'es gamin pour aller au lycée, pour aller à l'école, parce qu'il le racontait, c'est le chemin qu'il prenait tous les jours pour aller à l'école quand il était gamin. Et donc c'est un peu le homme Advantage. Maintenant, il faudrait que le home advantage il serve aussi en course. En tout cas, c'est exceptionnel. Et on sait qu'à Monaco, partir en pôle, c'est quand même un sacré avantage. D'autant que Verstappen s'est un peu raté sur les essais hier. Il partira avec la troisième ligne. Donc moi, j'y crois. J'espère que la Ferrari va tenir et que Charles Ier, prince de Monaco.
Prince de Monaco va enfin vaincre à Monaco. Ce sera à 15h. David, on parle du judo. Tu veux rajouter quelque chose sur Charles Leclerc?
Non, mais enfin, je suis pas sûr que ce soit le fait qu'il est gamin fait les parce que quand tu roules à plus de 290 km/h dans les rues. Non, mais ils se tiennent. Faut quand même préciser qu'ils se tiennent tous en quelques dixièmes. Hein, les 5-6 premiers, y compris avec Verstappen, il y a très 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 peu d'écart. Donc ça va donner une course de folie. Évidemment, l'avantage d'être en pôle à Monaco, comme l'a dit Christophe, c'est un sérieux avantage. Ça va être une très belle course. Ils sont battus comme des chiens pendant les qualifs, c'était vraiment beau à voir et moi j'ai hâte de voir le Grand Prix cet après-midi, franchement.
Et ce sera à suivre sur RMC avec Nicolas Paolorsi, avec Jean-Luc Roy, à partir de 15h. Troisième information dans le zapping des GG à vous donner, les mondiaux de judo mitigés pour l'équipe de France. On s'en fout pas. Je demande pas à David Douillet, évidemment. Christophe Cessieux.
Non, moi, je m'en fous pas. J'ai un avis sur tout, tu sais.
Bah, évidemment.
Même si c'est, il est mauvais,
c'est, mais j'ai un avis sur tout. C'est pour ça que t'es dans cette émission. Et même sur Kylian Mbappé, ça qui est fou. Sarah Pitkovski.
Non, je m'en fous pas.
Oh, bravo, Sarah.
Je m'en fous pas.
Très bien. Cinq médailles. Cinq médailles, une seule en or, aucune chez les hommes. Voici le bilan de l'équipe de France de judo au Mondiaux.
Bah, bravo Sarah, je le prends comment ?
Non, oui, parce que tu avais envie de participer à un zapping, c'est pour ça, Sarah.
Je sais, on a six médailles.
T'as dit ?
J'ai dit cinq ?
T'as dit cinq, on en a six, on
Pardonne-moi.
En a une par équipe en plus.
Oui, alors je parle en individuel, c'est vrai. Six
L'argent
médailles,
par équipe.
C'est vrai. Une en or, aucune chez les hommes. Voici le bilan de l'équipe de France de judo au Mondiaux d'Abu Dhabi à deux mois des Jeux Olympiques. Est-ce des Mondiaux ratés ? C'est la question que l'on a posée, que notre envoyé spécial Morgan Maury a posée à Baptiste Leroy, responsable du judo masculin. Réponse.
Plutôt moyen que raté, parce que qu'on le veuille ou non, ils ont la tête aux Jeux Olympiques. Ils avaient envie de gagner, mais ils ont la tête et on a la tête aux Jeux Olympiques, même ne serait-ce que dans la préparation. La planification, elle est faite pour essayer, si elle est bien faite, d'arriver en forme au mois de juillet et pas forcément au mois de mai, puisque on avait le quota, on jouait quasi plus de ranking list, donc il n'est pas raté.
Ok, il n'est pas raté. Baptiste Leroy, c'est ce qu'il nous dit au micro d'RMC. David, d'accord avec ça ? On s'inquiète pas, c'est normal ?
On s'inquiète pas. Non, on s'inquiète pas parce que je veux dire, quel sport pourrait se targuer d'être en prévisionnel des Jeux des Mondiaux avec six médailles qu'on a récupérées. Ce qui est inquiétant, c'est les féminins par rapport aux masculins. On a zéro médaille chez les masculins et ça, c'est inquiétant. On a sur les quatre sélectionnés, parmi les sélectionnés, les quatre sélectionnés aux Jeux féminines, elles reviennent toutes avec du médaille et ça, c'est super encourageant parce qu'elles préparent leur jeu. Évidemment, comme avec Benenou qui revient avec le bronze, c'est pas une contre-perf. Elle est sur les Jeux, elle est programmée pour les Jeux, donc c'est plutôt de bon augure. À noter que Romane Dicot était absente lors de ses championnats. Elle prépare les Jeux aussi.
Hein. Teddy Riner voilà. Également.
Teddy Riner également. Bon, après, la déception, elle vient plutôt des légers chez les garçons avec Luca Medze et Walid Kiar, où ils passent pas, ils ramènent pas de breloques. Faut savoir que Lucas, il revient de blessure, donc lui, il était en reprise de marque et prise d'information. Donc c'est pas forcément une contre-perf, même si sur le papier il y a pas de métal. Ouais, les garçons, il faut qu'ils se bougent. Mais ça on le sait depuis longtemps. On espère que la magie des Jeux va opérer et que ça va en transcender quelques-uns.
Ok, voilà ce que l'on pouvait vous dire sur le judo avec l'expert évidemment David Douillet. Vous allez suivre le judo, mais pas que, avec David Douillet à l'occasion des Jeux Olympiques. Une dream team absolument exceptionnelle et RMC se plie vraiment en quatre tout au long de ces Jeux Olympiques avec dès 9h du matin Christophe Cessieux qui sera là pour les sessions du matin et ça va aller jusqu'à 1h du matin.
À quelle heure toi ?
15h17h.
Ah, tu vas voir la grasse mat tous les jours tranquille, hein.
Bah oui, hein.
J'espère que vous viendrez me voir le soir, les copains.
Bien sûr, David Douillet, une dream team exceptionnelle. Vous n'allez rien manquer des Jeux Olympiques sur RMC. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour parler de Roland Garros. Enfin, car oui, ça commence aujourd'hui, Roland Garros 2024. On va parler de Nadal Zverev. Ça, c'est demain. Nadal aurait-il dû être protégé, oui ou non ? Comme d'habitude, vous n'êtes pas d'accord. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.